à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Mélodie Duval. Je vais vous parler de mes travaux de recherche sur les bactéries. Je suis microbiologiste et biologiste moléculaire. J'ai effectué ma thèse à Strasbourg dans l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire et je suis maintenant chercheur en postdoctorat à l'Institut Pasteur de Paris. Je travaille sur la manière dont les bactéries s'adaptent aux variations de l'environnement et en particulier aux antibiotiques. En récompense de mes travaux, j'ai reçu cette année le prix Madeleine Lecoq, qui est un prix décerné par l'Académie des sciences pour féliciter une jeune chercheuse venant de soutenir sa thèse en biologie ou en physique. Les bactéries sont des organismes microscopiques, mais qui pourtant jouent un rôle central. Elles sont par exemple responsables de la mise en place de notre atmosphère il y a environ 2 milliards d'années. Les bactéries vivent partout, y compris à l'intérieur de notre propre corps, dans notre ventre, sur notre peau. Nous vivons avec elles en symbiose, même si certaines d'entre elles causent parfois de maladies graves et mortelles. Les bactéries nous influencent sur de nombreux aspects. Elles ont tout d'abord eu un impact majeur dans notre histoire, comme Yersinia pestis, la peste, qui a été un facteur clé de la chute de l'Empire romain, ou encore le typhus, qui est transmis par les bactéries rickettsii, qui a tué un tiers de la population athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ et a livré la ville aux Spartiates. Elles jouaient également un rôle primordial sur notre santé, et on pense tout d'abord aux bactéries pathogènes, mais pas seulement, puisque nous hébergeons aussi un microbiote, constitué d'autant de bactéries que nous sommes composés de cellules humaines. Ce microbiote nous défend contre les bactéries indésirables, les virus ou les champignons, et participe à la mise en place de notre système immunitaire et à notre digestion. Même notre humeur et notre comportement sont influencés, puisqu'il a été démontré que la présence de certaines bactéries dans notre ventre réduit l'anxiété et améliore les interactions sociales. Les bactéries sont aussi largement utilisées dans les industries pour surproduire des molécules d'intérêt thérapeutique comme l'insuline ou encore pour dépolluer certains sols ou dégrader des composés comme les plastiques. Les bactéries survivent partout, y compris dans des environnements arides tels que l'espace, les fonds marins, les glaces, les sources thermales. Quels sont donc les facteurs de leur survie? C'est un voyage dans leur monde microscopique que je vous propose. Les bactéries sont des organismes de 1 millième de millimètre en moyenne. Elles sont constituées d'une seule cellule et leur mode de fonctionnement est relativement simple comparé à d'autres organismes pluricellulaires comme les plantes ou les animaux qui ont des organes dédiés à différentes fonctions. Comme tout organisme vivant, les bactéries se nourrissent, se développent, se multiplient. La plupart d'entre elles sont capables de se déplacer, par exemple grâce à un ou plusieurs flagelles qui sont des sortes de petites hélices. Par ailleurs, les récepteurs fixés sur leur membrane externe leur permettent de détecter une source de nourriture et de l'absorber. Elles vivent rarement de manière isolée. Elles communiquent, échangent, mais aussi attaquent d'autres bactéries aux cellules et se défendent. Les biofilms, par exemple, sont des assemblages de bactéries protégées par une couche de glucides qui posent de gros problèmes dans les hôpitaux, par exemple dans les cathéters ou sur les prothèses. Les bactéries sont parfois la cible de virus, les bactériophages, et possèdent d'ailleurs un système de défense similaire à un système immunitaire pour se protéger contre ces virus, appelé CRISPR. Les chercheurs qui l'ont découvert se sont rapidement rendus compte du potentiel de leur trouvaille, et CRISPR est aujourd'hui un outil particulièrement puissant de biologie moléculaire, utilisé comme une sorte de ciseau génétique pour modifier ou supprimer des morceaux d'ADN. Chacun de ces systèmes de survie, de communication, de défense ou d'attaque prend racine dans le génome des bactéries. En effet, des gènes spécialisés dans ces différentes fonctions sont exprimés au moment opportun, ni avant ni après, ni trop ni trop peu. Cela permet à la bactérie de produire l'ARN puis la protéine requise, sans toutefois gâcher de l'énergie inutilement. Mes travaux de recherche portent sur l'étude de ces mécanismes de régulation de l'expression des gènes, qui sont d'une grande diversité. Certains de ces mécanismes apportent des paradoxes. Pour rappel, l'ADN est transcrit, autrement dit photocopié, en ARN messager, qui est une sorte de plan de construction. Ce messager est ensuite reconnu par une usine appelée le ribosome qui synthétise des protéines en suivant ce plan de construction. Mais comment ce plan, cet ARN messager, est-il apporté au ribosome? Est-ce que tous les ARN messagers sont accessibles à tout instant? Ou alors y a-t-il besoin d'éléments extérieurs qui les préparent pour la lecture? Ce sont les questions que je me suis posées lors de ma thèse et j'ai donc commencé à étudier le ribosome et en particulier les éléments qui le composent. Un de ces éléments, une protéine appelée S1, m'a passionnée pendant 4 ans. S1 est la plus grosse des protéines ribosomiques. Elle est composée de deux parties distinctes, comme deux perles reliées entre elles par un fil. Nous avons voulu comprendre le rôle joué par ces deux parties et j'ai mis en évidence que le premier bout de cette protéine possède un rôle clé pour le bon fonctionnement du ribosome, puisqu'elle permet de recruter les ARN messagers, les plans de construction, et de les préparer de telle sorte à ce que le ribosome, l'usine, puisse les utiliser. Le deuxième bout de la protéine est quant à lui impliqué dans la synthèse du ribosome, si bien qu'en enlevant artificiellement S1 de la protéine, celle-ci meurt, ce qui démontre l'importance de cette protéine. J'ai mené ces études sur la bactérie Escherichia coli, qui est potentiellement mortelle, même si celles que nous utilisons au laboratoire sont inoffensives. La protéine S1 est également retrouvée chez des bactéries pathogènes comme Staphylococcus aureus, le staphylocoque doré, et au laboratoire, nous avons démontré son implication dans la virulence. Il s'agit donc d'une découverte qui nous permet de mieux comprendre comment les bactéries pathogènes produisent leur arsenal d'attaque lors des infections. Aujourd'hui, en post-doctorat à l'Institut Pasteur de Paris, je m'intéresse toujours aux bactéries et à leurs gènes et j'étudie désormais la résistance aux antibiotiques, qui est un problème majeur de santé publique. Les bactéries sont dotées de gènes permettant entre autres de couper les antibiotiques ou de les expulser, de telle sorte à ce que cela n'affecte pas leur croissance. Au laboratoire, je travaille sur la bactérie pathogène Listeria monocytogenes, responsable de la listériose, une maladie particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes, et j'ai notamment découvert un nouveau mécanisme de résistance aux antibiotiques. Plus précisément, le gène que j'étudie permet de protéger le ribosome des antibiotiques qui le ciblent et permet donc à la bactérie de survivre en présence d'antibiotiques. Ce gène est retrouvé chez plusieurs bactéries et dans l'environnement, ce qui nous pousse à dire qu'il est d'ores et déjà répandu et pourrait poser des problèmes à l'avenir. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre des bactéries, que ce soit en recherche fondamentale ou dans le développement de nouvelles technologies. Elles sont étudiées depuis plusieurs siècles et notre connaissance de leur fonctionnement ouvre aujourd'hui des possibilités prometteuses pour résoudre des problèmes actuels tels que la pollution des sols, la détection de molécules toxiques, la surproduction de molécules qu'il serait autrement difficile d'obtenir, etc. De par leur mode de vie, elles sont dotées de molécules qui les protègent des UV, du chaud, du froid, ce qui pourrait être particulièrement utile dans le développement de nouveaux produits. Par ailleurs, en les étudiant, nous trouverons sans aucun doute des solutions innovantes en termes de santé ou d'environnement, telles que des alternatives aux antibiotiques dans le cas d'infection par des bactéries multirésistantes, ou encore comment réduire les symptômes de certaines maladies comme l'autisme grâce au rééquilibrage du microbiote. Améliorer les interactions entre les plantes et les bactéries pourrait permettre d'utiliser moins d'engrais, moins de pesticides dans les champs, ou de dépolluer des sites souillés, comme cela est fait en bioremédiation. Enfin, en comprenant leur mode de vie, nous pourrons trouver des stratégies efficaces de lutte contre les bactéries pathogènes, tout en préservant notre propre microbiote. J'espère ainsi, pour le futur, avoir la chance de continuer à travailler sur et avec ces petits organismes au potentiel immense.